en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie, permettez-moi d'expliquer en quelques mots l'intitulé que j'ai retenu pour la communication que vous m'avez fait l'honneur de me demander. La création sans le créationnisme, voilà un programme qui peut ressembler à un vœu contradictoire, comme réclamer des sucreries mais sans caries, l'ivresse sans la vésalgie, ou si vous préférez la cuite sans la gueule de bois, le prêt sans les intérêts, etc. Alors, est-ce qu'il est possible de revendiquer une thèse, l'affirmation que le monde est créé, sans avoir à traîner les casseroles créationnistes et leur tintamarre de revendications fondamentalistes? C'est la position que je vais défendre. Je vais, pour ce faire, proposer et tenter de justifier une distinction entre une thèse métaphysique de la dépendance de l'univers par rapport à un créateur, et je l'opposerai à la position pseudo-scientifique créationniste. Alors, la position du créationnisme pseudo, enfin prétendu scientifique, revient à affirmer que les sciences de la nature seraient en mesure de nous prouver l'existence d'un créateur. Ce qui revient à concevoir la production de l'univers par un agent surnaturel comme un événement ou un processus justiciable de l'enquête scientifique. La thèse métaphysique de la création, au contraire, c'est une affirmation qui se prétend rationnelle, mais pas scientifique. Elle suppose donc que les sciences de la nature n'aient pas le monopole de la rationalité. Et c'est l'affirmation selon laquelle le monde doit son existence à un agent surnaturel, mais cette dette d'existence n'est pas un processus physique, c'est une relation de dépendance ontologique. Je vais donc d'abord proposer des raisons de principe qui me poussent à récuser les tentatives créationnistes, avant de suggérer quelques raisons d'adopter la thèse métaphysique de la création. Alors, en m'attaquant au créationnisme, je m'attaque à beaucoup, une nébuleuse de conceptions qui, historiquement et géographiquement, sont susceptibles de très nombreuses variétés. Pour dire rapidement, le créationnisme, ou plutôt ses nombreuses variétés, a sans doute d'abord eu partie liée avec l'interprétation littérale des nombreux récits cosmogoniques parsemés sur la planète, les hymnes de la Haute Égypte, du Rig Veda, les hymnes babyloniennes, la Théogonie, le livre de la Genèse, mais également des récits qu'on trouve chez les Indiens d'Arizona. C'est pas spécifique à une ère culturelle particulière. La création faisait via ces récits l'objet d'une révélation, semblait-il, et cette révélation prend la plupart du temps la forme narrative, avec les contraintes propres au récit, des personnages, un décor, une durée de l'action, un rythme. Et toute collectivité humaine ayant besoin de s'unir ou de se réunir autour d'une histoire commune, le genre narratif de la cosmogonie est devenu une sorte d'universel anthropologique. Cette mise en récit chronologique a laissé sur le concept de création une empreinte folklorique savoureuse, mais très dommageable pour la discussion de la thèse métaphysique. Alors, on se doute que le progrès des sciences astronomiques, cosmologiques, archéologiques, géologiques, biologiques a été la source de conflits entre les interprètes autorisés des récits surnaturels et les tenants de l'autorité des sciences de la nature. Mais loin d'abandonner la partie, et malgré les nombreux dénouements de ces conflits, les représentants du créationnisme contemporain entendent aujourd'hui utiliser les données scientifiques elles-mêmes pour restaurer l'affirmation d'une création du monde. Sur un mode plus ou moins littéral, il y a des créationnistes jeunes terres qui se tiennent à un calendrier biblique strict, des créationnistes plus expansifs, vieilles terres. Certains estiment qu'il y a une correspondance entre, par exemple, si l'on prend comme référence le récit de la Genèse, entre les jours de la création et les aires géologiques. Mais on a vu également fleurir des sciences de la création dans les années 60, nombreux instituts de creation research aux États-Unis, à Chicago notamment. Et leur but était d'étayer, par exemple, le récit du déluge sur des données géologiques ou d'imaginer, ça s'est vu, un scénario scientifique de création de la Lune. Alors, évidemment, l'utilisation d'un récit biblique ou autre comme chronologie cosmologique, géologique et préhistorique scientifiquement fiable est assez consternante, puisqu'elle revient à enrôler le concept de création dans une interprétation littérale. Un épisode particulièrement grotesque s'est produit en plein 19e siècle. Les progrès de la géologie et de l'archéologie sont tels que on met en évidence l'existence de strates géologiques très anciennes qui compromettent la lecture fondamentaliste de la Bible, qui plaçait la création du monde environ 4000 ans avant l'ère chrétienne. Qu'à cela ne tienne, dans un excès de zèle, tel naturaliste américain défendra l'idée que Dieu a semé des fossiles dans le sous-sol terrestre afin de confondre l'orgueil des savants. On aurait tort de crier au fondamentalisme évangélique américain, car notre Chateaubriand lui-même proposait bien avant la même réponse, en balayant d'un revers de main les raisonnements qui reculent l'origine du monde. Chateaubriand affirmait, je le cite, dans le génie du christianisme, « Dieu a dû créer et a sans doute créé le monde avec toutes les marques de vétusté et de complément que nous lui voyons. » Chateaubriand avait, semble-t-il, pressenti la notion d'obsolescence programmée. À la décharge et à la défense de Chateaubriand, il faut dire que le génie du christianisme contient également, dans les notes, des raisonnements totalement dénué de créationnisme, dans lequel il est fait droit, à la suite de Clark, dont je reparlerai plus tard, à un concept purement relationnel et non chronologique de création. Alors, quel est en gros le défaut de la cuirasse créationniste ? Les créationnismes scientifiques, même rangés sous la bannière de dessin intelligent ou de complexité irréductible, prétendent que l'enquête scientifique est en mesure de mettre en évidence une intervention surnaturelle. Or, par limitation méthodologique, les sciences de la nature ne sont pas compétentes pour traiter d'hypothétiques entités surnaturelles. La création, on peut le regretter, enfin, ce n'est pas une question de physicien. Nous ne disposons pas d'un hylomètre, par exemple, instrument qui nous permet d'affirmer qu'à tel moment de l'histoire cosmique, nous sommes en présence du néant. Nous ne sommes pas équipés d'un théoscope permettant d'observer l'interaction de Dieu et du néant, dont résulterait, moyennant la production de photons virtuels et une conservation de l'impulsion totale, un univers visible et un univers invisible. Nous ne disposons pas non plus d'outils théoriques nous permettant d'affirmer l'inexistence absolue, à un moment donné, de tout facteur, cause ou antécédent physique. Je voudrais souligner qu'il ne s'agit pas là de limites accidentelles. C'est par méthode que l'enquête scientifique doit définir des variables, des structures, des paramètres. Elle ne décrit pas le néant. Et quand elle vient à parler de fluctuations du vide quantique, elle parle de structures physiques très dynamiques et causalement reliées à des entités observables et mesurables. Ce qui n'est pas le cas du néant censé précéder la création. L'enquête scientifique suppose donc des dimensions, et moyennant la détermination de conditions initiales, elle entreprend de prédire ou d'expliquer l'évolution des systèmes physiques. La création n'est pas l'évolution d'un système physique. C'est, le cas échéant, l'opération qui fait qu'il y a un système physique plutôt que rien. Le défaut du créationnisme, pour autant, n'est pas de chercher à dater l'univers. Les modèles cosmologiques contemporains se livrent eux aussi à des estimations de la durée appartenante de l'univers observable. La faute consiste plutôt à imposer à la recherche scientifique un cahier des charges qu'elle ne peut pas tenir, en confondant deux concepts très différents d'origine, l'origine causative, permettez-moi ce néologisme, et l'origine temporelle. J'emprunte à Chalcidius, traducteur et commentateur du Timée de Platon, cette distinction, donc qui n'est pas si récente que cela, hein. Et en bon lecteur de Platon, Chalcidius affirme que l'origine du monde est causative, mais non pas temporelle. Origus igitur eius causativa non temporaria. Et Chalcidius poursuivait, hein, ainsi il se peut que le monde sensible, même s'il est corporel, soit éternel, et cependant qu'il soit fait et ordonné par Dieu. Augustin, Avicenne et tant d'autres affirmeront que l'acte créateur n'est pas un principe de mouvement qui ressortit à la physique, mais un principe donateur d'existence qui n'est pas lié à une chronologie ou à un timing particulier. Thomas d'Aquin reprend d'ailleurs l'idée d'une priorité de Dieu sur le monde en nature, natura tantum, et non selon la durée, non durationnée. Leibniz fera lui-même état, sur le ton d'une évidence bien connue, de la possibilité d'un monde éternel. Licet ergo aeternum mundum fingeres, et cependant un monde qui dépendrait inévitablement d'une raison dernière des choses, d'une raison extramondaine. J'y reviendrai tout à l'heure. Et c'est sans doute avec Samuel Clarke, que cite Chateaubriand avec éloge, et que dont Voltaire faisait ses délices, c'est Samuel Clarke qui est le plus explicite, et il tombe là-dessus d'accord avec Leibniz, qui est pourtant son adversaire lors d'une controverse célèbre qui l'oppose au sujet de concept d'espace et du temps dans la conception newtonienne. Je cite Clarke, « Il ne s'agit pas entre nous et les athées de savoir s'il est possible que le monde soit éternel, mais s'il est possible qu'il soit l'être original indépendant, existant par lui-même. Ce sont deux questions très différentes. Plusieurs de ceux qui ont embrassé la première se sont déclarés sans détour contre la seconde. Mais ces questions, en quel temps le monde a-t-il été créé? La création a été faite à proprement parler dans le temps. Ces questions, dis-je, ne sont nullement faciles à décider par la raison, comme il paraît par la diversité des opinions que les anciens philosophes ont eues sur cette matière. Ce sont des choses dont il faut aller chercher la décision dans la révélation. Autrement dit, si Clark pose un diagnostic fiable, il n'y a pas d'un côté les philosophes qui pensent que le monde est créé parce qu'il a un commencement, ou plutôt une durée appartéantée, et de l'autre, ceux qui estiment que le monde n'est pas créé parce qu'il est éternel. Les deux critères de la durée d'existence du monde et de sa dépendance ontologique sont relativement indépendants. Nous avons donc non pas deux, mais quatre possibilités. On peut concevoir un monde éternel et existant par soi, c'est celui d'Épicure en un sens, ou de Spinoza. On peut concevoir un monde temporellement fini et qui se met à exister par soi, c'est dans une certaine mesure une suggestion de David Hume, elle est pas très intuitive, mais au fond, il n'est pas certain qu'on puisse y trouver une contradiction conceptuelle. Troisièmement, un monde qui soit l'effet éternel d'une cause éternelle, c'est un monde envisagé par Philon, qui est très en faveur chez les néoplatoniciens, c'est Avicenne, c'est Averroès. Cette possibilité niée par Bonaventure, mais elle est accordée par Thomas d'Aquin, au moins comme possibilité rationnelle, et puis Leibniz-Clark. Et puis enfin, le scénario plus souvent retenu, un monde temporellement fini et qui existe en vertu d'une cause. Étienne Klein a, je trouve, très bien reformulé cette double acception du terme origine, origine causative et l'origine temporelle, en distinguant la question d'où vient l'univers de la question d'où vient qu'il y a un univers. La question d'où vient l'univers est une question de traçabilité physique, et la question d'où vient qu'il y a un univers, c'est une question d'explication ultime. L'une implique un concept physique de commencement, l'autre un concept métaphysique d'origine radicale. C'est une question d'explication ultime et qui n'est pas justiciable d'une observation, d'une théorie prédictive reposant sur diverses observations de divers états de l'univers. Et les créationnistes, m'a-t-il semblé, ont une fâcheuse tendance à confondre ces deux questions. Alors, cette distinction entre l'origine causative et l'origine temporelle, Georges Lemaître, fondateur de la théorie du Big Bang, n'a cessé de la maintenir. Contre d'ailleurs les instrumentalisations apologétiques ou anti-apologétiques dont il a fait l'objet. On soupçonnait d'avoir favorisé un modèle présentant une durée finie de l'univers en disant « oui, c'est un religieux, par conséquent, il veut favoriser une conception créationniste hein. ». Et inversement, on voulait lui faire dire que la finitude temporelle de l'univers impliquait forcément sa création. Je le cite « Personnellement, j'ai toujours essayé de montrer que la science laissait place à un commencement naturel du monde ». Et à moins d'avoir une science du surnaturel, je ne vois pas de quoi il pourrait être question. Sinon, il affirme qu'il ne s'agit absolument pas, je cite, de considérer scientifiquement une création surnaturelle du monde. Et donc, à rebours des tentatives de récupération apologétique, il affirme que le fait de ne plus pouvoir extrapoler les lois physiques vers le passé à partir d'un certain moment, le fameux temps de Planck, ça a été précisé après lui, l'impossibilité d'extrapoler les lois physiques vers le passé ne nous autorise pas à parler de création surnaturel. L'absence d'extrapolation ne nous permet pas d'extrapoler vers l'absence. Ou le néant d'extrapolation ne nous permet pas d'extrapoler vers un néant qui précéderait. Alors, sur cette question, je prends encore à témoin une de déclarations au congrès Solvay de 58. Une telle théorie, c'est donc son hypothèse cosmogonique de l'atome primitif qu'on a surnommé le Big Bang, une telle théorie reste entièrement en dehors de toute question métaphysique ou religieuse. Elle laisse le matérialiste libre de nier tout être transcendant. Et il ajoute, dans une interview plus récente, « Le problème de la création garde tout son sens métaphysique dans le sens de la dépendance de tout être de nous-mêmes. Ce problème serait totalement dégagé de la cosmogonie. » Et un autre maître de Louvain, Jean Ladrière, écrit ceci, « Quoi qu'il en soit du moment initial, il importe en tout cas de se rappeler que la question de la création est totalement indépendante de la question du commencement, en tout cas au point de vue métaphysique. Le concept de création est métaphysique, non physique. » Et c'est faute de distinguer ces deux questions qu'on se livre à des inférences douteuses, encore une fois, qu'elles soient théistes ou athées. Comme par exemple la célèbre déclaration de Stephen Hawking dans sa brève histoire du temps, il affirme ceci, « Tant que l'univers avait un commencement, on pouvait supposer qu'il avait un créateur. » Mais si l'univers était vraiment complètement autocontenu, sans bord ni frontière, il n'aurait ni commencement ni fin, il serait tout simplement. Quelle place resterait-il pour un créateur? Le raisonnement de Hawking stipule que pour avoir un créateur, l'univers doit avoir un commencement, et sa contraposée, pas de commencement, pas de créateur. Alors, certes, si les sciences de la nature étaient en mesure d'affirmer qu'à un moment donné, il n'y a rien du tout, il était une fois rien, mais vraiment rien du tout, alors l'existence subséquente de quoi que ce soit réclamerait une explication, et l'explication théiste ne serait pas en mauvaise posture, quoique à ce point, on pourrait dire, non, les choses se mettent à exister d'elles-mêmes. Mais la prémisse « il était une fois rien du tout » reste, me semble-t-il, hors de portée des sciences de la nature. Et quand même elle le serait, rien n'autorise un physicien à boucher les trous de l'explication scientifique en mobilisant des entités surnaturelles. Mais symétriquement, le fait qu'il ait toujours existé par hypothèse une réalité physique n'en donne pas pour autant une explication ultime. Et c'est le point auquel j'arrive maintenant. J'ai jusque-là essayé de défendre et d'illustrer avec quelques témoignages la distinction entre la création conçue comme processus de transformation physique et la création conçue comme relation de dépendance ontologique. J'ai affirmé que le premier concept ne donnait pas prise à un traitement scientifique. Je n'ai pas pour autant montré que cette relation de dépendance ontologique, qui est la version alternative, fut rationnellement défendable. Quelle raison pouvons-nous donc avoir d'affirmer l'existence d'une origine causative de l'univers, quoi qu'il en soit de son origine temporelle? Que pouvons-nous répondre? Et d'ailleurs, pouvons-nous seulement répondre à la question « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» Alors le fait que les réponses soient divergentes à cette question, le fait qu'un certain nombre d'anti-métaphysiciens prétendent avoir prouvé qu'on ne pouvait plus se poser la question, que nous n'étions pas équipés pour poser cette question, n'empêche pas cette question de faire de fréquents retours. Et je propose de l'instruire avec la comparaison proposée par Leibniz, encore une fois, qui argumente en faveur donc de l'existence, d'une raison suffisante de l'existence des choses, mais qui ne serait dans aucune des choses singulières, ni dans l'agrégat ou la série des choses, mais qui leur serait extérieure. Et pour ce faire, donc, il utilise une comparaison intéressante, je le cite, « Supposons que le livre des éléments de la géométrie ait existé de tout temps. » Un Euclide éternel, qui aurait de tout temps produit cette géométrie. « Et que les exemplaires en aient toujours été copiés l'un sur l'autre. Il est évident, dit Leibniz, bien qu'on puisse expliquer l'exemplaire présent par l'exemplaire antérieur sur lequel il a été copié, qu'on n'arrivera jamais, en remontant en arrière à autant de livres qu'on voudra, à la raison complète de l'existence de ce livre, puisqu'on pourra toujours se demander pourquoi de tels livres ont existé de tout temps, c'est-à-dire pourquoi il y a eu des livres et pourquoi ainsi rédigés. Ce qui est vrai des livres, dit Leibniz, est vrai aussi des différents états du monde, dont le suivant est en quelque sorte copié sur le précédent, bien que selon certaines lois de changement, les erreurs de copiste par rapport à l'exemplaire sont l'équivalent des changements, des modifications, des lois dynamiques du monde. Aussi loin, dit Leibniz, qu'on remonte en arrière à des états antérieurs, on ne trouvera jamais dans ces états la raison complète pour laquelle il existe un monde et qui est tel. Je commente rapidement. L'explication physique d'un état du monde par l'état précédent dans une régression à l'infini, après tout, pourquoi pas, tant qu'on a une explication par un état antérieur, eh bien, pratiquons-la. Mais elle n'est pas incompatible avec la question métaphysique d'une explication de l'existence même de ces états avec leurs lois de changement. Ce sont deux choses aussi différentes, et c'est ici que la comparaison proposée par Leibniz prend sa saveur. Ce sont deux choses aussi différentes que le sont l'auteur d'un manuscrit et les copistes qui le retranscrivent. On peut admettre une série infinie de causes accidentellement ordonnées, par exemple des générations sans commencement ni fin, les recopiages successifs d'un exemplaire, mais l'existence même de la génération et des membres de la série en général réclame une cause essentiellement ordonnée, c'est-à-dire une cause dont dépendent l'existence de chaque cause et son pouvoir d'exercer la causalité. Il me vient une comparaison, je ne sais si elle est secondue, mais imaginez que l'Académie des sciences morales et politiques ait toujours existé et qu'il y ait toujours eu un secrétaire perpétuel qui mériterait pour le coup vraiment son nom, et qui ait toujours eu des recrutements, des élections, et que donc l'État, la liste des membres a été renouvelée de part en part, mais qu'il y ait toujours eu une académie. Cela n'expliquerait pas pourquoi. Et il faudrait un fondateur, qu'il fût Conrad, Richelieu ou un autre, plus récent. Alors, Guizot. Donc, l'idée, c'est qu'une infinité de causes intermédiaires ne nous dispense pas d'une cause première, mais première non plus au sens chronologique d'une antériorité, mais au sens ontologique d'une priorité. Je vais vers ma conclusion. Je me suis forcé donc d'isoler le concept métaphysique de création d'un allié encombrant, et on pourrait me reprocher stratégiquement de m'être débarrassé de cet allié encombrant. J'espère avoir montré qu'il s'agit véritablement d'une alliance contre nature. Si je récapitule les défauts du créationnisme, et encore une fois, sous cette étiquette, il faudrait différencier un certain nombre de choses. Il y a un créationnisme très folklorique, un créationnisme administratif, un créationnisme juridique, un créationnisme scientifique. Bon. Des lobbies créationnistes. Bon. Le créationnisme, si je l'ai bien compris, confond d'abord commencement chronologique avec origine ontologique. Il prétend en outre qu'il est possible d'accéder scientifiquement à un commencement absolu. Et il prétend enfin être en mesure de mettre en évidence l'intervention d'un agent surnaturel. En prenant le contre-pied exact de ces trois positions, la thèse métaphysique d'une création peut, me semble-t-il, être prise au sérieux. Elle ne commet aucune de ces trois transgressions méthodologiques. Et j'ajoute que, contrairement aux prétentions déductiviste des arguments traditionnels de la théologie rationnelle, ce qu'on appelle l'argument cosmologique, c'est-à-dire l'argument leibnizien, selon lequel la série de tous les états de l'univers, qu'elle soit finie temporellement ou infinie temporellement, réclame une raison, un auteur et pas simplement des antécédents, hein, un écrivain et pas simplement un copieur ou des copistes. Hein. Je pense que cet argument n'est pas un argument déductif, c'est-à-dire tel que les prémices étant admise, la conclusion doit immanquablement être acceptée. C'est ce qu'on appelle une inférence à la meilleure explication. Il reste une possibilité, et que je vais un peu discuter néanmoins, de considérer qu'au fond, le monde existe par lui-même. Épicure, après tout, a raison. L'idée, c'est que donc, si je construis la proposition suivante, le monde existe et Dieu n'existe pas, cette conjonction de propositions ne contient pas de contradiction. Il est possible, il me semble possible, de considérer que le monde existe de lui-même. Mais, pourra-t-on objecter, alors pourquoi refuser au monde la propriété d'exister par soi, si c'est pour l'attribuer au créateur ? Hume avait une comparaison amusante. Il disait, au fond, le principe de raison suffisante qui veut que, pour tout état de choses, on réclame une cause ou raison qui rende compte de l'existence de cet état de choses, on le fait fonctionner, et puis quand on arrive à Dieu, soudain, Dieu en est exempté. Il disait, au fond, les principes de l'argumentation ne doivent pas être comme les câbles, les taxis que l'on hèle et que l'on renvoie lorsqu'on n'a plus besoin. Si vous assumez le principe de raison suffisante, vous estimez que tout état de choses, toute entité, réclame une explication de son existence et ses propriétés. Et du coup, vous ne devez pas vous arrêter à la cause soi-disant première qui est Dieu. C'est une objection valable, c'est celle que reprennent beaucoup d'essayistes ou de philosophes, à savoir, au fond, le problème d'une régression des causes à l'infini, même s'il ne s'agit pas d'une régression temporelle à l'infini, continue à se poser. Et là, c'est un athée d'Oxford qui, curieusement, avec une loyauté, un fair-play remarquable, donne une solution. Il dit, au fond, si vous prétendez que, dans une série non temporelle, il existe un être qui est cause de la série temporelle finie ou infinie de l'univers, mais que cet être lui-même, principe de raison suffisante oblige, doit son existence et son mode opératoire à un autre, et ainsi de suite à l'infini, un empilement vertical de causes essentiellement ordonnées, eh bien, vous avez non pas un Dieu, mais un Dieu tellement puissant, un véritable Elohim, un pluriel divin, qui est encore plus respectable et impressionnant qu'un petit Dieu solitaire produisant un monde tel un artisan bien élevé. Donc, l'idée, c'est qu'on est, là encore une fois, en présence d'une inférence à la meilleure explication, mais pas d'un argument déductif. Pourquoi refuser au monde la propriété d'exister par soi, si c'est pour l'attribuer à son créateur ? N'y a-t-il pas une inégalité de traitement ? Là, je pense qu'on peut donner une autre raison que celle de John Leslie Mackey. Si l'univers était une seule et unique entité, lui refuser la propriété d'exister par soi pour l'accorder à Dieu pourrait relever du tour de passe-passe. Et comme dit joliment Diderot, lorsque Dieu, dont nous tenons la raison, en exige le sacrifice, c'est un faiseur de tours de gypsière qui donne d'une main ce qu'il enlève de l'autre. Mais si l'univers, loin d'être une chose, est beaucoup de choses, alors il devient plus difficile, je ne dis pas impossible, de reconnaître à beaucoup de choses l'existence par soi. Parce que reconnaître à beaucoup de choses l'existence par moi nous met en présence d'une énigme. Comment se fait-il, si chacune tient son existence indépendamment de toutes les autres, d'elle-même ou de nulle part d'ailleurs, comment se fait-il qu'il y ait des espèces naturelles, des familles de particules, des objets dotés de propriétés structurelles et de dispositions parfaitement semblables, des régularités, et je fais remarquer que je fais ce raisonnement indépendamment de tout bénéfice anthropique. Ce n'est pas un raisonnement finaliste, c'est un raisonnement sur les raisons qui peuvent expliquer qu'il puisse y avoir des lois de la nature, des régularités dans les relations entre des entités et des structures identiques, au sens où Feynman dit que quand on a vu un électron, on les a tous vus. Bon, même si ce genre d'énoncé ferait frémir des physiciens contemporains. C'est un argument qui n'avait pas échappé à Bacon dans son essai sur l'athéisme, ni à Voltaire dans son très ingénieux dialogue de Lucrèce et de Posidonius, ni à Maxwell, mais il s'agit bien d'un argument métaphysique, et dans cette fameuse conférence de Bradford des années 1870, Maxwell précise que la science, je le cite, « n'a pas de compétence pour raisonner sur la création de la matière à partir de rien ». Dans cette conférence sur les molécules, il s'interroge sur la possibilité que nous pouvons rendre compte d'un univers constitué de molécules ayant des poids atomiques réguliers, des charges électriques identiques, etc., sans leur supposer une origine métaphysique commune. Mais c'est un raisonnement métaphysique et non pas un raisonnement physicien. Cette spéculation métaphysique sur la création, pourrait-on dire, en quoi nous importe-t-elle ? Elle ressuscite un vieux débat, et on pourrait dire, par les temps qui courent, on n'a surtout pas besoin de restaurer cette idée d'un créateur, elle est dangereuse. Bon. La question, d'ailleurs, de l'existence d'un créateur est de nos jours enterrée, privatisée, au prétexte qu'elle serait source de troubles à l'ordre public, et que donc elle tombe sous le coup de l'article 10 du préambule de la Constitution. Les opinions, même religieuses, sont admises, mais sous réserve qu'elles ne troublent pas l'ordre public. Je suggère, pour conclure, qu'il me semble au contraire qu'un ordre public soucieux du respect inconditionnel de tout être humain n'a pas de meilleur fondement que l'existence d'un créateur. C'est ce qu'affirmait historiquement la Déclaration unanime des 13 États-Unis d'Amérique. Tous les hommes sont créés égaux et dotés par leur créateur de certains droits inaliénables. C'est encore ce que les constituants du 20 août 89 comprenaient au titre des droits naturels inaliénables et sacrés de l'homme, lesquels furent déclarés en présence et sous les auspices de l'être suprême, ces auspices étant une garantie, une autorisation en un sens. On peut bien sûr m'objecter que, tel un nain juché sur les épaules de Jefferson, de Mounier ou de Mirabeau, j'abuse de l'autorité de ces grands hommes. Alors posons la question conceptuellement, car il se pourrait qu'ils aient eu tort, ou voir raison leur temps, mais tort pour les jours que nous vivons. Je pose la question, quels devoirs absolus pourrions-nous bien avoir collectivement tous envers tous si nous ne devions pas toutes et tous l'existence d'un créateur ? Alors, je n'ignore pas les dégâts produits jusque dans l'histoire la plus récente par l'invocation d'un créateur au nom duquel on s'entretue. Et généralement, le philosophe se retire, oh là là, vu les dommages collatéraux engendrés par la mention d'un créateur, il vaut mieux s'abstenir. Je crois au contraire qu'il est plus que jamais temps de ne pas s'abstenir, évidemment non pas en instituant une religion d'État créationniste, hein, mais en acceptant que le débat soit repris pour précisément disposer d'arguments contre une utilisation, à mon avis, abusive et franchement malhonnête de l'autorité ou de la volonté d'un éventuel créateur. L'instrumentalisation macabre du créateur n'est pas un argument contre la légitimité d'une enquête métaphysique sur l'existence de ce créateur. Et je dirais que c'est plutôt un argument à double tranchant, car un créateur qui exigerait de telle créature qu'elle en égorgeât une autre n'est justement pas digne d'obéissance. Et au lieu de reléguer les questions religieuses dans la sphère privée et d'interdire tout débat sur la légitimité des croyances. C'est quand même étrange que les programmes de philosophie inscrivent la religion, mais jamais Dieu, comme question de débat philosophique, comme si cette question était réglée dans le fort intérieur purement subjectif de chacun, et qu'en aucun cas il ne fallut la déterrer. Alors, je propose de l'exhumer, mais évidemment, en connaissant les limites de cette exhumation, au lieu de reléguer les questions religieuses dans la sphère privée et d'interdire tout débat sur la légitimité des croyances, osons porter publiquement le débat sur ce qui est acceptable, tolérable ou irrecevable en matière de croyances religieuses. Demandons-nous, par exemple, qu'est-ce qu'un père qui commanderait à certains de ses enfants de supprimer leurs frères au seul motif qu'ils ne croient pas les mêmes choses qu'eux ou qu'ils ne vivent pas selon les mêmes principes ? Ce père serait un monstre. Un monstre est-il digne d'obéissance ? Non. Dieu peut-il exiger la mort d'êtres humains ? J'affirme ici que c'est douteux. Je sais bien que de Nombreuses traditions font du sacrifice humain un élément de test de l'obéissance du croyant à Dieu, mais je ne sache pas que nous soyons commis à une lecture fondamentaliste de tous les sacrifices, quels qu'ils soient, aussi bien dans la Bhagavad Gita que dans le livre de la Genèse. Donc Dieu peut-il exiger la mort d'être humain? Il est temps de dire non, ou en tout cas c'est très douteux. Il me paraît absurde de croire en un créateur qui s'accommoderait de l'élimination de ses créatures, voire l'ordonnerait. D'ailleurs, ce n'est pas en assassinant ce qui apparemment manque de respect envers Dieu qu'on établit un quelconque respect envers Dieu. Quel Dieu pourrait se déclarer satisfait d'obtenir le respect d'un cadavre? La destruction de l'œuvre qu'il a lui-même proposée. Dieu, s'il existe, peut-il exiger le sacrifice de la responsabilité et de la raison qu'il a par hypothèse donnée aux êtres humains, à cette hypothèse dévastatrice? Il me semble que nous avons le devoir de répondre non. Et au soi-disant Dieu qui dirait « tu », T-U-E, et non pas le tu boubérien de l'adresse personnelle, non, tu, T-U-E, chaque être humain a le devoir de répondre non. Au prétendu créateur qui dirait détruit, chacun a le devoir de rétorquer, tu n'es donc pas celui qui nous a créés libres et égaux en droit, tu n'es donc pas digne d'obéissance et de respect. Au supposé Père éternel qui dirait supprime tes frères, il faut objecter, alors pourquoi me les as-tu donnés? Tu n'as qu'à faire le sale boulot toi-même. Et sur ce chapitre, il me semble que chaque tradition religieuse a de quoi pratiquer un large examen de conscience. Je vous remercie de votre patience.
Alors, nous avons plusieurs questions. Bernard Bourgeois, d'abord. Oui.
Merci, Madame le Président. Vous avez envisagé l'hypothèse d'une éternité de notre académie. Vous aviez bien raison. Et j'ajouterais que de toute éternité, elle a été métaphysicienne, c'est-à-dire que je pense qu'elle a été contente de vous entendre, car vous avez plongé au cœur de la métaphysique. Alors, je voudrais savoir, j'ai une réponse, mais j'aimerais que vous la confirmiez, qu'est-ce qui fait problème dans la création? Est-ce que c'est la créature ou le créateur? Deuxièmement, si vous me dites que c'est le créateur, mais je crois qu'en effet, c'est lui. Quelle est la différence entre, parce que vous avez beaucoup insisté sur la relation de dépendance, qu'il fallait séparer de la question de la temporalité, relation de dépendance, d'après laquelle, selon laquelle, Dieu serait la cause de ce qui existe et qui n'est pas lui, de l'univers. La création est une action causale particulière. Comment la définiriez-vous en sa spécificité par rapport à un autre type d'action efficace? Et troisièmement, est-ce qu'on peut se poser la question, je crois, me dit qu'on doit peut-être la poser, comment est possible un Dieu créateur? Un Dieu créateur qui crée quelque chose qui est à son image. Comment cela est-il possible? Et d'une manière plus particulière, j'aimerais que vous me disiez comment vous concevez la relation entre cette intervention, qui serait la création d'un monde par Dieu, et par exemple, dans une religion, parmi d'autres, l'intervention qui consisterait pour Dieu à s'incarner lui-même dans le monde, à faire beaucoup plus car se donner une image de lui-même dans la créature, et qui consisterait pour lui à se faire une créature. Merci, Madame le Président.
Vous n'étiez peut-être pas douté que les questions suscitaient un redoublement de la conférence. En plus, il y a beaucoup de questions encore. Monsieur Ménard.
Merci, Madame. Madame le Président. J'aurais beaucoup personnellement à retenir des remarques que nous venons d'entendre, Mais celle qui me paraît la plus intéressante encore, la plus suggestive en tout cas, c'est tout simplement le titre de la communication. De la création au créationnisme. Nous sommes là en face d'un modèle, d'un modèle de raisonnement, d'un modèle qui est très fréquent aujourd'hui, et dont le meilleur modèle est peut-être encore celui qu'a employé notre confrère de l'Académie française, Jean-Luc Marion, grand philosophe s'il en fut, Dieu sans l'être, Dieu sans l'être. Dieu étant l'être par excellence, Dieu sans l'être, eh bien, on retrouve le modèle qui se répercute de la création au créationnisme. C'est-à-dire que c'est une des données, vous avez cité d'autres exemples d'ailleurs, dès le début de votre exposé, et c'est l'une des considérations les plus intéressantes que l'on puisse faire sur la pensée actuelle, c'est qu'elle a tendance à passer de l'histoire à la philosophie ou à l'idéologie, si l'on veut, la création étant un acte, comme il a été dit précédemment, et au contraire, le créationnisme étant une théorie, étant une chose, en tant qu'idée, elle est une chose. Donc, l'aspect humain disparaît de ses vues. Même Dieu, peut-être, on parle de Dieu en termes humains, c'est normal, parce que Dieu est une sorte de modèle de l'idéal humain. De même que l'homme est tenu parmi les remarques qui ont été faites, il y en a une que je rappelle aussi, c'est on se demande si la religion est destinée à combler les vides de la science. Moi, je dirais, il y a une autre question qui n'est pas moins authentique. Est-ce que la religion ne crée pas des vides que la science s'applique à résoudre? Il y a une vision. Là, historiquement, c'est ce qui se passe. Dans l'histoire des doctrines et des réflexions humaines, il y a un grand nombre de thèses qui sont des thèses qu'on dirait aujourd'hui métaphysiques ou religieuses, et qui ont précédé la création de la science. Mais la science est venue s'insérer dans la problématique posée par la religion elle-même. Le rapport science-religion ne peut cesser de se produire à toutes les étapes qui suivront. Nous sommes en face d'une... Et alors, je dirais... en raison de ma formation philosophique, la question n'est pas seulement tellement de savoir si la science contredit la religion, mais de savoir ce qui reste à la religion, ce qui est propre à la religion et ce qui est propre à la science. Et dans la perspective à laquelle je me placerai, il y a deux domaines de la pensée qui sont celui de la science et celui de la religion. Pour un Descartes, par exemple, ce n'est pas vrai. Pour Descartes, la démonstration de l'existence de Dieu est une nécessité pour qu'il y ait une science. Il n'y a pas de science si on n'a pas démontré l'existence de Dieu. C'est inconcevable. Pour Pascal, par exemple. En réalité, il y a un domaine de la science et qui est celui des lois telles qu'elles sont établies quand elles sont établies rigoureusement. Il y a un domaine de ce qui est transscientifique qui existe toujours, et ce domaine transscientifique, il a deux objectifs qui concernent essentiellement l'homme en même temps que Dieu. C'est à la fois son origine et sa fin. On parle toujours de l'origine, mais on oublie généralement la fin. Or, il y a un projet. Il y a un projet humain et il y a une origine humaine. Et les deux sont aussi importantes pour constituer cet univers spécial qui s'étend au-delà de la sphère du scientifique. Merci beaucoup, Madame le Président.
Merci, Monsieur. Jean-Jean Issoutou.
Madame le Président, merci. En entendant votre communication extrêmement claire et complète, on se surprend à croire au dessein intelligent, je dois dire. Mais je voudrais vous poser une question, peut-être connexe, et vous allez peut-être me dire qu'il n'y a pas vraiment de lien, mais il me semble qu'aux États-Unis, et peut-être dans d'autres pays occidentaux actuellement, mais d'abord aux États-Unis, le débat tel qu'il se déroule, pas dans les séminaires universitaires, mais dans le public, dans la définition des programmes scolaires, dans les campagnes électorales, parce qu'à mon avis, si un candidat à l'investiture du Parti républicain se déclare darwinien, il peut aller se rhabiller, aujourd'hui, je pense. Bon, y a un débat qui est connexe, mais peut-être pas, vous allez nous dire ce que vous en pensez, entre ce que vous avez expliqué et d'autre part le débat pro et anti-darwinien, c'est-à-dire évolutionnisme ou fixisme, créationnisme. Ce qui me paraît être une autre façon de poser quand même la même question, peut-être un peu moins philosophique malgré tout, avec cette difficulté que pose l'évolutionnisme, reconnu par tout le monde comme l'hypothèse, n'est plus l'hypothèse considérée comme évidente aujourd'hui par tout le monde. Le darwinisme repose sur les mutations génétiques. Or, l'étude statistique du temps nécessaire pour aboutir à ce que des mutations génétiques conduisent à certains résultats d'évolution des espèces, statistiquement, est très supérieur à ce que bien, la géologie et l'étude de la paléontologie démontrent comme rythme d'évolution des espèces. Ce qui pose un problème qui, à ma connaissance, est davantage occulté aujourd'hui que vraiment, enfin occulté, laissé de côté, disons, occulté c'est un peu négatif, que vraiment traité. Je me rends compte que je vous ai posé en fait deux questions en une seule, pardonnez-moi, mais je serais très intéressé d'avoir votre avis à ce sujet. Merci beaucoup.
Merci. Monsieur Casanova.
J'ai été très impressionné par votre communication dont la richesse me fait penser, me rend certain du fait que je n'ai certainement pas tout saisi de vos références et de vos implications. Mais je voudrais vous poser la question suivante. J'ai été frappé par le fait que très souvent vous utilisiez l'expression de l'existence du monde et très peu l'expression de l'évolution ou de l'histoire du monde. Or, je crois que les sciences naturelles ont amené deux certitudes. Il y a une histoire de l'univers que l'on retrace, avec évidemment un commencement incertain, mais des perspectives. On sait que le système solaire disparaîtra, et donc que la Terre disparaîtra. Donc il y a une histoire de l'univers, et il y a une histoire de la vie. Et l'histoire de l'univers et l'histoire de la vie sont très étroitement liées. Alors à partir du moment où il y a une histoire, il y a évidemment un système qui est analogique par rapport à ce que vous appelez les narrations. La Genèse est une histoire, et les sciences expérimentales donnent une histoire. Est-ce que, justement, le créationnisme ne va... Enfin, l'idée de la recherche d'une création ne devient-elle pas l'idée de la recherche d'un sens ou d'un dessin? Il y a très longtemps que je n'ai pas réouvert un livre de Théard de Chardin, mais je crois qu'il y avait chez Théard de Chardin l'idée d'une théorie de l'évolution, au fond, qui de la croissance de la perception et de la conscience, qui est une espèce d'avènement de l'esprit. J'ai oublié son schéma, mais il y avait un schéma, si vous voulez. Je me souviens d'une discussion entre lui et le père Fessard, où il y avait le cercle du père Fessard et le cône de Théard de Chardin. Et je ne sais pas si l'un entrait dans l'autre, mais c'était... Quel est l'oméga, oui. Donc ma question est très simple. Est-ce que ce n'est pas, au fond, la perception dans les sciences de l'histoire et de l'évolution qui crée une tendance à un nouveau système, à une nouvelle interprétation de la création qui est une interprétation du sens?
Merci. Rémi Brague.
Merci, Madame le Président. Bon, j'ai deux questions. D'une part, il existe en philosophie et ailleurs une idée suivant laquelle, une idée ou une image, je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre, selon laquelle le créateur, dans le cas bien entendu où il y aurait un créateur, aurait laissé des traces de lui-même dans sa créature. Bon, ça se trouve chez Descartes par exemple, mais pas uniquement chez lui, c'est même plutôt un lieu commun. Alors est-ce que c'est encore utile? Est-ce qu'on peut se servir encore de cette idée ou de cette image fortement chargée de concept, ou est-ce qu'il faut simplement l'oublier? Et puis ma deuxième observation, par de vos considérations sur la possibilité d'un univers qui se serait fait lui-même, hein, qui serait apparu simplement. Bon, c'était l'idée, par exemple, de Fred Hoyle, à qui est due l'expression initialement ironique et critique de Big Bang. Est-ce que l'on peut comprendre cette sorte de spontanéité radicale qui serait supposée par l'existence par soi, ou plus exactement l'existence à partir de soi? Là, je m'exprime dans le vocabulaire de la scolastique. Vous aurez reconnu le concept de aseitas, aseité, bon, que l'on translittère plutôt qu'on ne le traduit en français. Je me demande si on n'aurait pas intérêt à envisager l'existence d'une sorte d'intérêt de la raison, disons, d'avantage sans doute purement subjectif en faveur de l'idée d'un créateur divin, en ce que si le monde existe par soi, eh bien, nous ne pouvons pas comprendre comment une réalité de nature matérielle pourrait se créer elle-même. En revanche, dans le cas d'un créateur, à proprement parler, nous avons un analogue, c'est la liberté. Nous faisons chaque jour l'expérience d'une spontanéité radicale. Dans toute décision libre que nous prenons, nous avons une création à toute petite échelle. Alors je me demande si on ne pourrait pas verser cet élément au dossier.
Merci. Alors, Alain Besançon.
Seulement rappeler que dans la question de la régression des causes, ou la régression, il y avait une réponse d'Aristote qui était anen kestena, il faut bien s'arrêter quelque part. Or, on sait que saint Thomas a repris les preuves d'Aristote par le mouvement, par les causes, mais il a gardé cette évidence, cette anen kestenai, il faut s'arrêter quelque part, et s'arrêter quelque part, c'est la cause première, ou c'est le premier mouvement, etc., qui serait Dieu. Nous savons quand même que la révolution occamienne, le mouvement occamien d'Occam et de Machin, a été justement de refuser cette anen kestenai et de dire qu'il n'y a pas de raison de s'arrêter quelque part. Et ça suffit d'ailleurs pour renverser la métaphysique thomiste, pour plusieurs siècles, malgré les reprises de thomisme qu'il y a eu après. Alors, qu'en pensez-vous?
Monsieur Trichet.
Merci beaucoup, Madame le Président. Votre exposé est absolument remarquable et je dois te dire qu'il suscite lui-même des réflexions à l'infini. Première question, le dessin intelligent est présenté en France de manière unanime comme étant la traduction de Intelligent Design. Or, je crois avoir trouvé chez Maupertuis l'expression dessin intelligent. Donc, il y avait un concept. Est-ce que le concept de dessin intelligent que nous avions du temps de Maupertuis est toujours celui dont nous parlons? Deuxième question, remarque. Vous avez évidemment était très loin dans la conviction que la thèse métaphysique, et à l'opposé du créationnisme, était la bonne. Est-ce que je peux vous demander de nous commenter Spinoza? Dans quelle mesure Spinoza apporte-t-il une vraie réponse, finalement, à cette question? Est-ce que, finalement, le Dieu auquel vous songez, nous songeons, peut s'identifier, d'une manière ou d'une autre, avec la nature? Troisième question, remarque. La science elle-même évolue tellement vite qu'elle a tendance à disqualifier non seulement tous les récits de Genèse, même perfectionnés ou qui se perfectionnent au fur et à mesure, et même, à vrai dire, les conceptions scientifiques précédentes. Moi-même, j'ai commencé mes études scientifiques dans un monde où le Big Bang était encore un concept dérisoire et où, disons que la plupart des scientifiques acceptaient encore l'idée d'un univers se déplaçant dans le temps de manière constante, disons, sans histoire. Et Einstein lui-même, d'ailleurs, était tellement surpris que certaines de ses équations puissent conduire à un univers ayant une histoire qu'il les modifiait pour les rendre compatibles avec cet univers inchangé. Et, bien entendu, les choses se sont accélérées, ce qui fait que notre conception de l'univers change de manière absolument dramatique, je dirais presque tous les 5 ans. Vous posiez 2 questions, d'où vient l'univers ? Et la question plus profonde, d'où vient qu'il y a un univers ? On peut peut-être ajouter, et j'aimerais avoir votre propre commentaire, de quoi est fait l'univers que pourtant nous voyons, puisque nous arrivons à identifier à peu près 4% de cet univers-là, le nôtre, celui que nous regardons quand nous regardons le ciel, qui est la matière que nous connaissons. Il y a de la matière noire en nombre, si je puis dire, beaucoup plus importante, et il y a l'énergie noire. Bref, nous ne connaissons à peu près rien de notre propre univers visible. Par ailleurs, les théories les plus actuelles, celles de Linde, de Gut, l'inflation, etc., conduisent à penser qu'en tout état de cause, que nous voyons nous-mêmes est probablement une infime fraction d'un univers qui nous ressemblerait beaucoup, et que, en tout état de cause, il y a beaucoup d'autres univers qui ne nous ressemblent pas du tout, et c'est ce qui semble très étroitement associé aux théories les plus modernes, et qui convainc d'ailleurs de plus en plus de scientifiques, le fameux multivers. Nous sommes dans un univers avec ses lois, mais il y a 10^n autres univers qui ont d'autres lois. Bref, quels sont les commentaires que l'on peut apporter à des visions scientifiques qui sont beaucoup plus vertigineuses, je trouve, que tout ce que la philosophie peut produire, en fait.
Merci. Il reste 2 questions. Monsieur Saint-Sernin, je crois. Oui.
Merci, Madame le Président. À la fin de votre exposé, vous avez dit que nous devions rompre avec les conceptions mortifères de Dieu. Et je voulais vous demander, le hasard fait que j'ai relu le livre 21 de la Cité de Dieu qui peuple l'enfer de tous les gens qui n'ont pas été baptisés dans l'Église catholique romaine, alors que et qui critique en même temps la position d'Origène et de ce qu'il appelle les miséricordieux. Et d'autre part, on a à l'inverse la prière de saint François Xavier qui a été sanctifiée par Grégoire XV en 1622, si ma mémoire est bonne, et qui aurait adressé à Dieu une prière disant « N'oublie pas que tu es mort non seulement pour ceux qui te connaissent, mais pour ceux qui ne t'ont jamais rencontré. » Alors, je voulais avoir votre sentiment sur cette différence très grande et sur ce que vous appelez la conception mortifère de Dieu.
Enfin, Madame Delmas Marty.
Merci, Madame le Président. Oui, j'étais très intéressée par le propos de notre communicant et je dois dire assez convaincue par la distinction entre le commencement et la création. Ça me paraît tout à fait pertinent. En revanche, vers la fin, vous avez employé une expression, si j'ai bien compris, de créationnisme juridique. Et je me suis demandé ce que vous mettiez derrière cette expression. Alors, pour ma part, ça m'a fait penser au débat qui avait eu lieu au moment de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, à propos de l'article 1er, « Les hommes sont doués de conscience et de raison ». Il y a eu au cours du débat plusieurs propositions. Les uns voulaient qu'on dise « sont doués par Dieu de conscience ou de raison ». D'autres voulaient qu'on dise « par la nature ». Et progressivement, il semble que pour arriver à un accord, et surtout pour arriver à donner à cette déclaration un caractère universel, puisque l'ambition des rédacteurs, c'était de transformer une déclaration internationale, ce qu'on leur avait demandé, en déclaration universelle, ce qu'ils ont finalement adopté. Alors, pour que l'universalisme soit acceptable. Il fallait, et ça a été notamment une remarque du délégué chinois, Chang Pengchun, il fallait ne faire aucune référence. Donc, on a commencé par enlever la nature. Non, on a commencé par enlever la référence à Dieu. Et du coup, on a enlevé aussi la référence à la nature. Alors, est-ce que c'est cet exemple que vous aviez à l'esprit? Mais là, ça serait plutôt un refus du créationnisme, me semble-t-il. Ou quels sont les exemples que vous aviez à l'esprit? Merci.
Merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions. Organisez-vous comme vous voulez pour répondre peut-être à plusieurs ensemble ou comme vous voulez.
Merci, Madame le Président. Alors, bien qu'ayant défendu une conception atemporaliste de la création, je vais répondre dans l'ordre chronologique des questions qui m'ont été faites. D'abord, à Monsieur Bernard Bourgeois, qu'est-ce qui fait problème dans la création? Est-ce que c'est la créature ou c'est le créateur? Il est vrai qu'il y a un problème d'analogie entre les concepts que nous utilisons pour décrire un agent, la cause d'une action, d'une opération, et ce fameux agent surnaturel. C'est comme ça que l'appelait Auguste Comte, un agent surnaturel, voilà, dont le positivisme nous aurait débarrassé. La création est une opération pour laquelle nous n'avons pas d'analogue. Quand nous décrivons une intervention ou la production par un être humain ou par dans le cadre d'une interaction dans un phénomène naturel, nous avons un référentiel, un espace-temps dans lequel nous pouvons assigner des positions, des forces. Bon. Là, rien de tel. Et de fait, ce défaut d'analogie a fait dire à beaucoup de philosophes, alors, de quoi parle-t-on? Vous n'avez pas la moindre analogie. Or, le spécialiste de l'idéalisme allemand que vous êtes sait bien que dans ce fameux plus ancien programme de l'idéalisme allemand, dont on ne sait s'il est dû au jeune Fichte ou au jeune Hölderlin ou un autre encore, il est écrit que la seule analogie, et c'est une remarque qui a été d'ailleurs donnée par Rémy Brague, la seule analogie que nous ayons de l'acte créateur, c'est effectivement celui de la responsabilité morale, et qui n'est pas essentiellement temporelle. Car je peux très bien, si j'entre dans de nouvelles fonctions, assumer, alors Madame Smarty me contredirait sans doute, pénalement et moralement, enfin comme personne morale et non plus physique, quelque chose que je n'ai pas fait. Mais voilà. Donc l'idée de responsabilité morale que nous avons, et qui se traduit même dans le droit, n'est pas essentiellement chronologique. Ça ne veut pas dire que nous soyons capables de rétroaction, mais enfin, nous pouvons assumer une responsabilité d'un acte que nous n'avons pas forcément commis dans le temps. Donc cette l'analogie, elle est là, et du coup je traite en fait simultanément les remarques de M. Rémy Brague. Lorsque Descartes parle d'une marque laissée par l'ouvrier sur son ouvrage, il parle évidemment de la volonté qui en nous est infinie. On peut tout vouloir. On peut vouloir envers et contre tout. Et je pense que ça pourrait être considéré comme une trace, un vestige du créateur, mais au sens où c'est toute la vie morale, dans la mesure où elle suppose une responsabilité, laquelle implique une liberté de l'agent, qui, sans quoi, n'a pas de pertinence. Il n'y aurait aucune pertinence à blâmer le collaborateur ou à faire l'éloge du résistant, pour autant qu'ils étaient vraiment l'un et l'autre. On parlait tout à l'heure des mythes de la Seconde Guerre mondiale. On ne pouvait pas leur attribuer une liberté. Et donc, la présence d'une possibilité d'évaluation morale, si elle n'est pas expliquée par les sciences physiques, la matière, les états même computationnels du cerveau, aussi complexe soit-il, eh bien, il faut bien que ce bien soit indexé sur un absolu. Car si le bien est uniquement négociable par contrat, ce qui est très pratique dans certaines situations, on ne peut pas y voir quelque chose d'absolu. Et c'est étonnant de voir des penseurs pourtant proches d'un certain nihilisme ou d'une philosophie de l'absurde, comme Albert Camus ou Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, dans ses entretiens avec Simone de Beauvoir, la cérémonie des adieux, et Albert Camus, dès L'homme révolté, affirmait qu'au fond, la vie morale n'est concevable que si l'on affirme quelque chose d'inconditionné, une source inconditionnelle de quelque chose qui est le bien. Le bien de tout bien, vers quel ou quoi tout se réfère. Et du coup, là, plus besoin de parler de Dieu, on peut remplacer Dieu par le bien, c'est tenté que l'un et l'autre se convertissent, mais là, nous avons quelque chose d'intéressant et qui permet de souligner l'analogie manquante, sinon, L'opération d'un créateur, on ne sait pas ce que c'est, puisque nous avons toujours des agents qui agissent en héritant d'une situation antérieure, dans des conditions données et sur des objets donnés. Nous ne sommes que des transformateurs. Et Saint-Augustin déplorait l'habitude charnelle, la consuetudo carnalis, selon laquelle on ne peut pas s'imaginer Dieu autrement qu'en train de mettre la main à la pâte. Or, la relation de dépendance est beaucoup plus forte que cela. C'est ce qui fait que nous existons. Et alors, l'analogie, c'est celle du bien. Lorsqu'un homme ou une femme sont un homme ou une femme de bien, le bien transpire, il se diffuse. Et on peut dire, l'analogie, c'est que le bien est contagieux et il y a comme une émanation par rapport au Créateur. Alors, qui dit émanation ? Généralement, on dit émanation, donc vous êtes immanentiste ou panthéiste, pas du tout. Le terme d'émanatio n'est absolument pas enfermé dans une conception immanentiste de Dieu. Il est employé par Thomas d'Aquin pour désigner la création. Émanatio totius entis adeo. Bon. Alors, je reprends, il y a bien une analogie. Nous sommes capables de concevoir la création sous le mode de la responsabilité morale, sur le mode d'un bien qui se diffuse et qui n'a pas à chercher en dehors de lui une raison de se diffuser, car il est de la nature du bien de se communiquer, comme la bonne humeur, le cas échéant. L'ordre des choses est très difficile à concevoir, à tel point que Antonin Dalmas-Certillange, qui a traduit et commenté les questions de Thomas d'Aquin sur la création, dit que l'ordre dans lequel nous devons considérer les choses, ce n'est pas Dieu, puis la création, puis la créature, c'est la créature. C'est d'abord à elle que nous avons affaire, puis son insuffisance pour expliquer son existence, et donc une relation qui nous mène à un créateur. Et ce qui fait que nous ne sommes plus obligés de nommer un créateur, ce qui comprend toujours le risque de l'idolâtrie ou de l'imposition d'un modèle culturel ou d'un modèle narratif qui ne concerne qu'une tribu. Et en ce sens, on peut recevoir les objections de la délégation chinoise aux propositions de René Cassin et autres. Évidemment, si on parle de relation de dépendance complète, celui ou ceux dont nous dépendons n'est que envisagé à partir de notre point de vue créature, et ce qu'il est en lui-même échappe certainement à notre prise conceptuelle. Vous évoquiez encore, Monsieur Bernard Bourgeois, la question de l'incarnation. Alors ça, c'est évidemment tout un pan des questions religieuses, mais dans les religions du monde, il y a quand même une singularité, celle d'un Dieu qui se fait homme. Et alors là, les modalités d'un se faire homme sont pour le moins délicates. Je pense qu'elles relèvent vraiment du mystère. Mais à mon avis, elles sont la meilleure réponse au problème de la théodicée. Car un Dieu qui se contenterait, même moyennant la promesse d'une fin heureuse, de voir se débattre les humains dans leurs crimes, serait un Dieu très indifférent, un Dieu qui porte sa part de destruction, et non pas comme tel Dieu hindouiste en la provoquant, mais en la subissant lui-même, un Dieu qui vit une kénose, et peut-être plus crédible comme Dieu moral bon, qui se communique, qui se diffuse, mais pas simplement dans la création, également dans la créature. Monsieur Jean Ménard me fait l'honneur de placer la création sans créationnisme dans le sillage de Dieu sans l'être. Je crains que cet honneur soit usurpé, puisque j'ai plutôt défendu une position de ce qu'on appelle la théologie rationnelle et qui n'est pas, n'est pas vraiment celle de Jean-Luc Marion. Quant à savoir si une religion est non seulement bouche-trou, mais crée des vides, je pense que c'est vrai. Pendant longtemps, la question des météores et de la foudre ont appartenu à la religion. C'était au Pontifex Maximus de décider pourquoi la foudre s'était abattue sur Marcus Quintus et non pas sur Sextus. Et au fond, petit à petit, la religion, ou l'autorité religieuse plus exactement, s'est vue démise de certaines compétences. Mais vous semblez dire pour autant que l'intersection entre science et religion est l'ensemble vide, qu'il s'agit d'ordres pascaliens très différents. Je pense que l'une et l'autre, quand même, ont la prétention d'expliquer ou de décrire une réalité qui est donnée. Et donc, si leurs méthodes sont différentes, je pense qu'elles sont quand même tenues de parler de la même réalité. Mais sous deux modes différents, la science sur le mode du fonctionnement du réel en fonction des conditions initiales et des lois qu'on a pu inférer d'une certaine régularité. Et puis, la question métaphysique religieuse, qu'est-ce qui fait que tout ce scénario existe ? Monsieur Georges-Henri Soutou, me place sur le terrain extrêmement vaste des discussions autour du darwinisme et de la probabilité ou de l'improbabilité qu'il y aurait à force, à coup de mutation génétique, d'arriver à la fabrication d'un appareil comme l'œil. Ce sont des questions qui ont été longtemps débattues. Je ne nie pas qu'il y ait dans un scénario purement darwinien, des perplexités. Tout lecteur de l'Origine des espèces sait que Darwin, loin de les mettre sous le tapis, en fait des chapitres entiers. Il y a un chapitre entier sur le défaut du registre fossile. Il nous manque des fossiles. Eh bien voilà. Mais de là, alors d'où des postulats plus contemporains sur l'évolution par saut gradué, etc. Il y a des réponses. Mais l'idée, c'est que tout va bien tant qu'on pardonnez-moi cet anglicisme, tant qu'on en reste avec un casting scientifique, avec des outils scientifiques. Et dès lors qu'on fait intervenir le doigt de Dieu, alors je pense qu'on fait tort aussi bien à la science qu'à Dieu. Bon. Alors, rien n'empêche vraiment de considérer que l'évolution du cosmos accouchant assez rapidement, finalement, d'un certain nombre de machines complexes est étonnante, mais tant que nous l'étudions avec des instruments scientifiques, il n'y a pas d'oscilloscope de l'étonnement, il y a juste des faits, des probabilités, et puis tirer des conclusions, faire des inférences surnaturalistes, me semble effectivement dangereux, mais ce n'était évidemment pas le sens de votre intervention. Moi, je suis assez favorable à ce que Stephen Jay Gould appelle, ou appelait plus exactement, le non-recouvrement des magistères, le non-overlapping of magisteria. Hein. Mais le fait que les sciences de la nature ne puissent pas empiéter sur la question de l'existence de Dieu, elles ne sont pas compétentes, et que les métaphysiciens ou les religieux n'aient pas escalité les compétences pour se dire quelle théorie d'évolution est préférable, ne signifie pas que les métaphysiciens qui se posent la question sont forcément dans une mythologie évasive. Monsieur Jean-Claude Casanova me rappelle qu'effectivement, et c'est une chose importante parce que la façon dont on décrit les problèmes métaphysiques est quand même tributaire d'une longue histoire des sciences, et que après avoir cru, avec Newton, finalement, c'est assez curieux que Newton affirme que l'espace et le temps comme ça, sont des dimensions mathématiques objectives et infinies, et que, bon, y placer un commencement, c'est sans doute une question de foi, mais que la science, elle, ne s'occupe pas d'un commencement. Eh bien, après cet univers newtonien, on arrive finalement à des scénarios qui historicisent davantage l'univers, et donc qui semblent, c'est intéressant, qui semblent redonner à la conception, à l'approche narrative, une pertinence. Et vous passez de la narration à l'idée de sens et de dessein. Alors là encore, quelqu'un qui prétend lire un dessein divin ou surnaturel dans des objets naturels, dans des rapports entre des tailles d'un ossement, la répartition des espèces disparues sur un îlot, etc., à mon avis, confond deux distributions d'acteurs. Et en revanche, ça ne veut pas dire que nous soyons incapables de parler de dessin. On peut se poser les questions, c'est les questions que se pose par exemple un philosophe contemporain, encore un Anglais, excusez-moi, Richard Swinburne, qui dit au fond, le fait qu'il y ait des lois de la nature, le fait qu'il y ait des régularités entre une action que je pose et le résultat que j'en attends, est une condition nécessaire pour qu'il y ait une existence morale. Si, lorsque je verse un verre d'eau, l'eau perdait ses propriétés et devenait un acide sulfurique, ou autre chose, eh bien, l'acte charitable que je ferais vers mon voisin deviendrait immédiatement un acte criminel, sans qu'il y ait de ma responsabilité. Donc, la constance des lois de la nature, la fiabilité des interactions les plus élémentaires, comme verser de l'eau et en espérant que l'eau reste de l'eau, sont des conditions nécessaires pour l'action morale. Et donc, si un dieu défini par hypothèse comme bon est l'auteur d'un monde dans lequel il y a des lois naturelles, on a une bonne raison de penser qu'il le fait en vue de permettre l'action morale. Mais un monde dans lequel, lorsque je veux décocher une droite menaçante, c'est un bouquet de fleurs qui sort de ma main, au lieu d'un gant de boxe, eh bien, au fond, un monde serait un monde dans lequel nous serions des marionnettes, mais des marionnettes moralement irresponsables. Donc, il y a bien la possibilité métaphysique de déceler un dessin, mais il est d'ordre non pas scientifique, d'ordre de, j'allais dire, des sciences morales et politiques, qui sont votre fort. Alain Besançon rappelle l'adage aristotélicien, l'aninquestenai, l'interdiction de progresser vers l'indéterminé, hein, mais es apeiron yenai, et signale que la révolution okamiste a, en un sens, compromis le finitisme de l'explication auquel, finalement, Aristote se tenait et auquel Thomas d'Aquin, bon an, mal an, se serait rallié. Je pense que il y a néanmoins une lecture de Thomas d'Aquin à faire qui lui permet de répondre à Occam en distinguant mieux que le fait Occam, mais comme le fait encore Dan Scott, entre la série des causes accidentellement ordonnées dont Thomas d'Aquin affirme qu'elle peut être infinie, même si nous trouvons que la faisabilité physique d'un tel système est peu probable en raison des lois d'entropie, mais qu'importe, ces lois n'ont peut-être pas toujours été en vigueur. Hein. Donc, une série des causes accidentellement ordonnées et une série des causes essentiellement ordonnées. Et c'est uniquement dans la série des causes essentiellement ordonnées, c'est-à-dire les causes dans lesquelles la cause est responsable non seulement de l'existence de l'effet, mais de l'opération et de l'existence actuelle de l'effet, hein. Non pas comme Abraham engendre Isaac, Isaac engendre Jacob, parce qu'une fois que Abraham a engendré Isaac, moyennant Sarah, si j'ose dire, eh bien, Isaac ne dépend plus d'Abraham pour ce qui est d'exister. Dans le cadre des causes essentiellement ordonnées, hein, l'effet doit toujours son existence et son opération à la cause. Et là, nous retombons sur la très belle comparaison post-occamiste de Leibniz. Un livre aurait beau avoir été recopié une infinie fois, il faut un auteur. Et si l'auteur a un auteur, il a un auteur, mais il faut un responsable. Des thomistes contemporains, je pense à Patterson Brown, ont retraduit l'exemple leibnizien de manière assez amusante. Imaginez le quai Conti un vendredi soir, vers 20h, les véhicules sont à l'arrêt, hein, et l'un des occupants d'une voiture, soudain que son véhicule est embouti par l'arrière. Alors il est furieux. Et même s'il vient d'assister d'une très belle séance de l'Académie des sciences morales et politiques, il perd son sang-froid, il insulte le conducteur de la voiture suivante, mais le conducteur de la voiture suivante lui fait valoir que lui ou elle aussi était à l'arrêt et donc a été percuté. On peut imaginer, alors il faudrait pour cela supposer une quantité d'essence infinie, un quai Conti où les quais indéfiniment étendus, mais Paris, ville éternelle, en a vu d'autres, hein, et de sorte que on pourrait imaginer un accident dans lequel un carambolage infini, n'est-ce pas, dans lequel l'état de chaque pare-choc dépendrait essentiellement de l'emboutissement par le véhicule antécédent, et ainsi de suite à l'infini. Mais au moment d'envoyer les constats d'accident à l'assureur, l'assureur va demander, enfin, à qui devons-nous exiger le remboursement, hein, qui est le tiers payant, hein. De sorte que on pose ici deux questions différentes. La question quoi ? Quels sont les antécédents et les conséquences qui peuvent être causalement reliés selon une enquête physique ? Et la question qui ? La question d'une responsabilité. Cette question, on n'est pas forcé de la poser. Et je pense, là, ici, on trouve dans la métaphysique théiste qui peut encore survivre aujourd'hui, l'idée que on n'est pas forcé de demander qui. Et là, la question et la remarque de Mireille Delmas-Marty me paraît évidemment cruciale. Si la vox populi a exclu Deus des déclarations universelles des droits de l'homme, cela ne supprime pas pour autant la question de savoir à qui ou à quoi devons-nous cette obligation mutuelle. Et si ce n'est qu'un contrat, alors la critique marxiste ne rencontrera aucun obstacle. Ce contrat est souscrit par les puissances occidentales dominantes qui veulent interdire le feu nucléaire à l'Iran, mais se réserver le choix d'arbitrer quand même la destinée des ressources en hydrocarbures et de la monnaie mondiale. Si en revanche on affirme que ces droits de l'homme ne sont pas uniquement un contrat ou un intérêt bien compris pour aménager le rapport des forces entre les puissances, mais s'il s'agit vraiment d'une obligation inconditionnelle, alors elle doit avoir une source. On n'est pas obligé par rien, par personne. Et je ne vois pas de meilleur candidat à la source de l'obligation universelle qu'un être auquel nous devrions l'existence. L'idée, c'est que nous n'avons de devoir que si nous devons notre existence. Hein ? D'où l'idée de devoir envers des parents, mais qui sont toujours limités, car les parents peuvent se révéler de très mauvais parents. Hein ? Bon. Je passerai, je m'en excuse auprès de Bertrand Cernin, j'ai apprécié les cours sur Spinoza, mais je parlerai de Spinoza très rapidement quand même. Le De Civitate Dei d'Augustin renferme des trésors dont certains sont un peu effrayants, alors sont-ce des allégories, sont-ce des menaces exécutoires, je ne sais. Je n'ai pas besoin de vous rassurer pour vous dire que la Sainte Église, elle, c'est affirmé que lorsqu'il n'y va pas de sa propre faute, une personne qui ne connaît pas, et donc elle est devenue plutôt xaviérienne qu'augustinienne sur cette question, n'encourt pas un châtiment éternel. Je finis par la remarque de Jean-Claude Trichet. Alors, je n'ai pas lu assez de Maupertuis, j'ai lu quelques petites choses quand même, mais pour méditer sur le concept de dessin intelligent, alors est-ce qu'il ressemble à ce que William Dembski appelle dessin intelligent ou pas, je ne saurais vous le dire. Spinoza est une très très grande objection à la question de la création. Mais Spinoza use d'une manière tout à fait efficace, mais peut-être un peu abusive, qui est de dire que de toute façon, Dieu est la nature. Deus sive natura. Dieu ou, si vous voulez, c'est-à-dire la nature. Pourquoi non ? Auquel cas, la nature, si elle est Dieu, existe assez, à partir de soi, ne requiert aucun fondement qui la fasse exister, et d'où vient qu'il y a une nature ou d'où vient qu'il y a Dieu, deviennent des questions sans objet. La nature explique d'elle-même son existence. Elle est d'ailleurs, c'est une expression, elle est l'explication d'une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Mais le problème, c'est la description que donne Spinoza. C'est de considérer que le monde n'est qu'une seule substance. Et alors, je ne vais pas abuser de l'ironie de Pierre Bayle dans son dictionnaire historique et critique. Il dit, mais alors, donc, s'il en est ainsi, ça veut dire que Dieu modifié en 10 000 Allemands vient de tuer Dieu modifié en 10 000 Turcs, ou réciproquement, ou que Dieu se pend lui-même sur l'échafaud, se juge lui-même, se détruit lui-même. Et de sorte que le nécessitarisme de Spinoza a de grandes vertus thérapeutiques, de grands penseurs comme Alain, Simone Weil, etc., ont recouru à Spinoza pour admettre un certain cours forcé des choses et se réconcilier avec l'idée d'une nécessité dans l'agir humain. Mais est-ce que nous pouvons décrire la responsabilité humaine individuelle lorsque Spinoza nous dit que nous agissons du seul fait de la volonté divine ? Nos ex solo dei nutu agere et c'est ma manière de remercier néanmoins Bertrand Sasserdin dont les cours sur Spinoza, sur l'action, m'avaient permis de mesurer que Spinoza écrit un livre sur l'éthique, intitulé L'éthique, dans lequel il n'est pas question d'action. Ou plutôt, il y a un seul agent qui est Dieu, et nous agissons de son seul chef, ex solo dei nutu. Voilà, je crains d'avoir abusé du temps que vous m'avez généreusement attribué pour vous répondre. J'ai un problème de description. Le système de Spinoza est très envoûtant, mais est-ce que je suis vraiment en mesure d'affirmer qu'il n'existe qu'une seule réalité dont les aspects les plus contradictoires ne sont que des expressions à divers degrés ? J'ai personnellement du mal à le faire. Et finalement, sur le caractère extrêmement partiel, voire totalement parcellaire de notre connaissance de l'univers, il est certain que l'actualité scientifique nous révèle une masse cachée, une masse noire, qui maintenant, c'est beaucoup plus que 80% de masse lumière, une énergie cachée également. Bon, deux attitudes sont possibles, ou bien le scepticisme total, bon, écoutez, nous ne pouvons pas nous prononcer, nous disposons de 4% d'une base observationnelle, nous ne pouvons pas aller plus loin, ou bien considérer que de toute façon, la science ne prétend pas l'exhaustivité et que nous demeurons dans notre recherche scientifique, à la recherche du système des hypothèses qui donneront la meilleure explication ou les meilleurs tests prédictifs par rapport aux phénomènes observables. Quant au multivers, alors je me suis un petit peu renseigné sur ces étranges animaux, ou quant au multivers au singulier, il faut considérer deux choses. Ou bien il s'agit de constructions purement spéculatives dont le but souvent avoué est d'affirmer, un peu comme Jacques Monod le faisait dans Le hasard et la nécessité, que de toute façon, nous avons tiré le gros lot, nous étonnons, nous admirons l'admirable organisation, la régularité de l'univers, mais nous oublions les quantités astronomiques, c'est le cas de le dire, d'univers dans lesquels ça se passe très mal, et que du coup, nous jugeons d'une exception, mais que la règle, c'est le chaos. Le problème, c'est que pour se débarrasser d'un Dieu créateur d'existences ordonnées, nous sommes obligés de faire l'hypothèse d'une quasi-infinité d'objets qui échappent à l'observation. Alors, ça, c'est une première réflexion. En revanche, il est vrai que certains modèles faisant état du multivers permettent des gains prédictifs et des gains observationnels. Bon, eh bien, voyons comment l'histoire des sciences évolue. Et si un jour l'histoire des sciences, ou plutôt l'état des sciences de la nature, nous permet d'affirmer que l'univers dans lequel nous sommes est un univers ordonné, mais qu'il est entouré d'une multitude d'univers qui ne le sont pas, il restera la question, ben, pourquoi y a-t-il cette multitude d'univers plutôt que rien ? Mais je reconnais qu'il y a un effet frigorifiant, rafraîchissant quant à l'enthousiasme métaphysique, si on vous dit, mais c'est l'argument de Lucrèce, qu'au fond, les atomes crochus qui, dans notre région, nous donnent une apparence d'ordre, ne sont rien par rapport au règne éternel d'un chaos infini. Sur ces paroles nobles...
Écoutez, merci, vous avez été exactement tel que je vous attendais, c'est-à-dire que sur un sujet bien difficile, vous nous avez passionnés. Merci beaucoup.